Bonjour à tout le monde. Eh bien, bravo à vous d'être là de si bon matin sous ce soleil pour une discussion sur climat et pauvreté. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ok, super. Donc, on a 50 minutes à peu près pour faire le tour ensemble d'un sujet qui est vraiment très important, mais qui est sans doute encore assez mal connu. Je vais demander à nos deux intervenants de ce matin de faire vraiment un effort d'explication et des sujets et de donner des exemples afin qu'on comprenne qu'on parle de situations extrêmement concrètes. Préserver la planète, les pauvres sont-ils concernés? En fait, l'intitulé de cette conférence aurait pu être formulé à l'affirmative. Oui, les pauvres sont concernés, évidemment. Mais on va s'efforcer ce matin d'expliquer pourquoi et comment ça concerne aussi bien l'international que le national, la situation française aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois. Alors donc, pour en discuter, Pascal Canfin, directeur général du VVF France, est venu ici ce matin, et Claire Hédon, présidente d'ATD Carmonde. Alors peut-être honneur aux invités, et on commence avec Pascal Canfin. Quelles sont pour vous les principales raisons pour lesquelles préserver la planète concerne en premier lieu les pauvres?
Alors, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bonjour à tous. Peut-être un petit mot d'abord pour expliquer ma... Alors, je vais prendre celui-là. Est-ce qu'il marche mieux? Oui, apparemment, oui. Pour expliquer ma présence ici, ça remonte à un échange avec Claire sur, dans le cadre de l'archipel, des solutions que nous avions lancées pendant la campagne présidentielle avec Nicolas Hulot. Et l'objectif, c'était justement de faire des passerelles entre nos différentes causes. Alors, on est absolument convaincu, quand on dirige une ONG, qu'il y a évidemment la cause sur laquelle on est, mais il y a une cause plus large qui regroupe l'ensemble des acteurs clés de la société civile. Et c'est ces passerelles-là qui sont évidemment tout aussi intéressantes que chacun avance dans son univers et dans sa zone de confort, nous sur l'environnement, l'ATD sur la lutte contre la misère. Et du coup, on a commencé à discuter ensemble, et je trouve que c'est très riche, justement, qu'on puisse croiser nos expériences, nos visions, notre vision du monde, mais aussi le vécu. Alors, ça, c'est pour les organisations, et puis il y a mon parcours personnel aussi. Moi, je suis petit-fils de mineur. Mon grand-père est mort des maladies professionnelles de la mine. J'ai vécu dans le bassin minier du Pas-de-Calais. La misère, je sais ce que c'est. Je ne l'ai pas vécu, je ne vais pas vous raconter d'un crack, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais je viens d'un milieu populaire, pas de la misère, c'est différent. Mais quand il suffit d'aller dans les rues de Lens, de Liévin, de Bruay, de Béthune, etc., pour que la misère, on la voit dans l'espace social. Donc je sais ce que c'est, et c'est important du coup aussi que vous sachiez d'où je parle. Pourquoi du coup faire le lien entre les deux, pour moi, est fondamental? C'est parce que un des risques majeurs de justement de la cause environnementale, que l'on parle climat, que l'on parle pollution de l'air, que l'on parle des différents sujets qui sont liés à la cause de la planète, c'est en gros de dire ça c'est un truc de bobo, c'est un truc pour les riches. D'abord le sujet c'est le pouvoir d'achat, la consommation, l'emploi, etc. Puis le reste on verra plus tard. C'est quand même quelque chose qui est quelque part inscrit en chacun d'entre nous. Et donc, il faut d'abord déconstruire ça. Il faut déconstruire ça à partir de quelques exemples fondamentaux en France et dans le monde. Je vais commencer par le monde. Plus on est pauvre dans le monde, et donc, si on se situe par exemple dans des pays sahéliens, qui sont les plus pauvres du monde, le Niger, le Tchad, le Mali, etc., plus on est pauvre, plus on est dépendant de son environnement naturel proche. Parce que moins on a de ressources pour s'en extraire. Donc si je suis dans un univers naturel qui se dégrade, parce que la forêt dans laquelle je puisais mes ressources se détruit, parce que le désert qui était avant à 50 km et maintenant à 5 km et progresse, eh bien, plus cet univers se dégrade, plus je suis affecté. Résultat, je migre. Et si je migre, je migre d'abord dans mon pays, puis dans la région, puis éventuellement, pour une toute petite partie, je migre vers le nord, les pays riches, mais je sais que je m'engage dans un univers qui est forcément compliqué, et dans un parcours et une vie qui est forcément compliquée. Et donc, une grande partie de la déstabilisation d'un certain nombre de pays qui sont les plus pauvres du monde s'explique aussi par la dégradation de ce qu'on appelle les écosystèmes. Donc la progression du Sahara, les sécheresses qui augmentent, la déforestation. Je prends le lac Tchad. Le lac Tchad, c'est le Niger, le Tchad, etc. Vous avez là un lac qui était une énorme réserve d'eau pour les populations autour. Ce lac a perdu 90% de sa superficie ces dernières décennies. Donc vous imaginez, quand vous perdez 90% des ressources pour le poisson, pour l'eau douce, pour tout ça, bah forcément ça pose un problème. C'est exactement la zone où Boko Haram prospère. Et que disent les gens sur place? Ils disent, bah, puisqu'on n'a plus de ressources, puisqu'on n'a plus de travail, la dignité, c'est quand même d'avoir une activité, même si cette activité, elle est illégale, même si cette activité, ça consiste à porter des valises pour Boko Haram, à planquer des armes quelque part, etc. Et ça, c'est donc un lien très fort. Ça passe par un canal de dégradation de l'environnement, de l'écosystème là où on vit, et les plus affectés sont d'abord les plus vulnérables, donc les plus pauvres. Maintenant, donc c'est un exemple, je pourrais en donner plein d'autres en Amérique latine ou ailleurs. C'est un exemple très concret qui, je pense, parle à tout le monde. Maintenant, si je zoome sur la France. Aujourd'hui, vous avez une corrélation très claire entre le degré d'exposition aux pollutions et le niveau de revenu. En gros, plus on est pauvre, plus on est exposé aux différentes pollutions. Par exemple, la pollution de l'air, quand vous habitez au bord de la Ain, quand vous habitez au bord du périphérique, pour prendre des exemples d'Île-de-France. Vous êtes donc là aussi dans une corrélation très forte sur l'impact. Et donc je pense qu'il y a un raisonnement assez clair et assez limpide pour dire, en gros, plus on est pauvre, plus on est impacté par la dégradation de l'environnement, sous toutes ses formes. Maintenant, la question qui est posée, c'est préserver. Donc préserver, c'est agir. Et donc une fois qu'on a dit que plus on est pauvre, plus on est impacté par la dégradation de l'environnement, la question qui reste, c'est oui, mais finalement, préserver cette ressource unique qui est notre... Donc une fois qu'on a dit ça, reste la question qui est en quoi agir pour préserver, ça concerne aussi les personnes qui ont le moins de revenus. Et c'est là où on a pas mal échangé aussi avec ATD Quart Monde, c'est de dire, alors d'abord, il y a plusieurs fils à tirer. Premier fil, contrairement à ce qu'on croit, bien se nourrir, ça ne coûte pas forcément plus cher. Or, aujourd'hui, vous avez une corrélation très forte entre l'obésité et les revenus. Plus on est pauvre, moins on se nourrit bien, à la fois en quantité et en qualité, et donc plus on a des déséquilibres liés à l'alimentation. Nous, on a fait un certain nombre d'analyses, et on sortira d'ailleurs dans quelques semaines, de montrer que si vous consommez davantage de fruits et de légumes, ce qui déjà en soi est bien meilleur que de consommer des plats cuisinés, vous pouvez considérablement améliorer la qualité nutritionnelle de ce que vous mangez, donc c'est infiniment meilleur pour votre santé, et vous savez très bien que vous, du coup, vous diminuez l'impact que vous avez sur la planète. Je prends un cas concret, le kilo de lasagne le moins cher qu'on ait trouvé, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, ne demandez pas si c'est du bœuf, du cheval, etc. Le kilo de lasagne le moins cher qu'on ait trouvé, c'est 6 € le kilo chez Lidl. 6 € le kilo, vous avez n'importe quel fruit et légumes, bio, pas bio, vous avez 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, vous trouvez à peu près tout ce que vous voulez. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu culturel, et ça c'est très important pour nous de nous associer à des ONG comme ATD, hein, pour travailler sur la question de l'alimentation, parce que c'est à la fois le lien entre la santé et la planète, et c'est tout à fait possible de faire ça pour moins cher, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Deuxième élément, c'est les emplois. Vous avez une très, et j'arrêterai là, vous avez une magnifique, magnifique initiative sur le chômage de longue durée et territoire zéro chômeur. Une grande partie des emplois qui sont disponibles aujourd'hui pour la cible qui est la vôtre, et pour les personnes qui ne sont pas insérées aujourd'hui sur le marché du travail, des emplois qui ne sont pas forcément publics, des emplois qui ne sont pas sur le marché, que des entreprises ne fournissent pas, bien une grande partie d'entre eux sont liés aux sujets environnementaux, sont liés à des nettoyages de plages, peuvent être liés à des nettoyages de rivières, peuvent être liés à de l'entretien des espaces verts, peuvent être liés à plein de choses. Et donc là, on a un lien direct sur préserver la planète, restaurer la planète, nettoyer, dépolluer, etc. C'est fournir potentiellement de l'emploi pour des personnes qui en ont plus besoin. Donc on a au moins deux exemples qui n'ont rien à voir, l'alimentation et l'emploi, et j'ai compris que je n'avais pas le temps d'en développer plus, mais je reparlerai après, mais c'est pour vous tirer quelques fils qui montrent que le débat est très large.
Du coup, Pascal, j'ai très envie de réagir sur un point que tu viens d'expliquer sur la question de l'alimentation, même si c'est pas dit, je ne réponds pas directement à la question, mais pour répondre, parce qu'on a tout un groupe à Nancy qui a travaillé sur cette question du comment s'alimenter quand on est en situation de pauvreté. Et les personnes disent, mais l'histoire des 5 fruits et légumes, on l'a parfaitement compris. Simplement, ton kilo de légumes dont tu parlais par rapport à ton kilo de lasagne, c'est que tu en as un qui cale pas et l'autre qui cale pour pas cher. En gros, ça nourrit. Voilà. Et la situation de ce que nous disent les personnes en situation de précarité, c'est qu'on a tellement peu pour se nourrir tous les jours qu'il faut quelque chose qui cale le ventre plutôt que des légumes. Donc c'était juste pour répondre sur cette question-là et vous dire qu'il y a dans ce village une partie justement consacrée aux questions de santé. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce travail de réflexion sur comment se nourrir quand on est en situation de précarité, et le mouvement ATD Carmonde participe aux assises justement de l'alimentation qui ont lieu en ce moment pour expliquer tout ça. Pour répondre à la question du réchauffement climatique, préserver la planète, oui, les pauvres, les personnes en situation de précarité sont concernées. D'abord, j'avais envie de donner un chiffre. Chaque année, il y a plus de 20 millions de personnes dans le monde qui sont obligées de fuir leur foyer pour des raisons climatiques. Donc ça, on est à peu près tous d'accord, et Pascal l'a dit, sur le fait que le réchauffement climatique impacte prioritairement les personnes les plus pauvres. Mais la réalité de ce qu'on constate, nous, c'est qu'en plus, les mesures pour pallier au réchauffement climatique ou pour lutter contre se retournent aussi contre les personnes en situation de précarité. Je vais vous donner deux exemples. À Manille, je pense qu'il faut vraiment agir sur la question de la sono. Là, il y a un souci. Je ne sais pas si c'est les micros qui interfèrent. Je ne sais pas si c'est la question de... Donc je reviens à la question. On est tous d'accord pour dire que l'impact du réchauffement climatique, c'est les plus pauvres qui sont les premières victimes. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a des décisions qui se retournent contre elles. Je vous donne deux exemples. À Manille, le mouvement ATD Carmonde est avec deux groupes de familles, un groupe qui vit dans un cimetière, un autre qui vit sous un pont. Au moment d'un typhon, juste après un typhon, les familles ont du coup été relogées, mais à 50 km du centre de Manille, avec des problèmes de transport, des problèmes d'accès au travail et même d'accès à l'école et à l'éducation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elles sont retournées vivre sous le pont, puisque c'était le seul moyen de trouver du travail dans l'environnement. Donc si on ne prend pas des mesures avec ces personnes en situation de précarité pour savoir qu'est-ce qu'elles veulent et comment elles peuvent vivre, voilà, ça se retourne contre elles. Un autre exemple à la Nouvelle-Orléans qui est très flagrant, c'est qu'à la suite de Katrina, on s'est aperçu que les familles ont été éloignées de la ville, mais surtout n'ont pas pu revenir. C'est-à-dire tous les logements, les nouveaux logements qui ont été construits étaient trop chers pour elles. Et donc, de fait, les plus pauvres ont été exclus de la Nouvelle-Orléans. Voilà deux exemples frappants qui montrent comment des mesures pour pallier au réchauffement climatique se retournent contre elles. Et alors là-dessus, du coup, on a fait une série de propositions. Je ne sais pas si je peux commencer à les développer. 5 propositions. La première, d'abord, qui nous paraît indispensable, c'est la question d'évaluation des projets. Mais on dit, oui, il faut évaluer, il faut savoir si ça marche, mais il faut évaluer à partir des 20% les plus pauvres. Si ça fonctionne sur les 20% les plus pauvres, on arrivera à toucher le reste de la population. Si on évalue que ce qui marche sur le haut des personnes, là, on va laisser de côté les plus pauvres. Le deuxième point, c'est ce que j'ai commencé à vous développer, c'est s'attaquer au réchauffement climatique avec les personnes concernées. On a plusieurs exemples à Madagascar, à Dakar, dans la banlieue de Dakar, où il y a régulièrement des inondations. Les plus pauvres étaient à chaque fois les plus victimes, c'est-à-dire que chaque maison essayait d'installer un système d'évacuation de l'eau pour que l'eau circule, mais ça retombait toujours sur les plus pauvres qui, eux, n'avaient pas forcément les moyens de travailler sur cette évacuation. Et bien, il y a tout un groupe de personnes qui se sont mis ensemble, qui ont travaillé ensemble pour faire des réseaux d'évacuation d'eau ensemble dans le quartier. Et cette manière de s'associer, du coup, la mairie s'est intéressée aussi à ce projet, et on arrive du coup à des décisions qui ne laissent personne de côté et qui incluent les personnes les plus pauvres dans le projet. Donc c'était la deuxième proposition. Après ça, c'est instaurer la justice climatique en s'assurant que les financements touchent les populations les plus pauvres. Je vais vous donner juste un exemple en Haïti, au moment du tremblement de terre. Le mouvement ATD Carmonde est présent à Haïti, dans le quartier de Grand Ravine, depuis très longtemps. Et au moment du tremblement de terre, il y a des aides qui sont arrivées, entre autres des aides alimentaires, et on s'est aperçu que ça ne touchait pas les quartiers les plus défavorisés, par peur, parce que ce sont des quartiers réputés violents et difficiles. Donc le mouvement ATD Carmonde, avec les habitants de Grand Ravine, a réussi à organiser pour que la distribution alimentaire arrive jusqu'à eux. Mais en fait, au bout d'un moment, l'ONG qui travaillait là-dessus s'est retirée parce qu'en gros, entre guillemets, elle ne faisait pas assez de chiffres. On ne lui reproche pas, cette ONG, mais les financements qu'elle a au niveau international, c'est en nombre de repas ou de paquets distribués. Et forcément, dans des quartiers entre guillemets, plus difficiles, où il y a des questions de sécurité, qui sont plus dans des zones plus reculées, plus difficiles d'accès, et ben, du coup, ils se sont retirés. Donc, si on ne fait pas attention en permanence, quand il y a des événements comme celui-là, à être sûr de toucher vraiment ces personnes, ça se retourne à chaque fois contre elles. Quatrième proposition, c'est mettre en place des socles de protection sociale dans tous les pays. Ça, c'est une demande qu'on a depuis longtemps. Une équipe d'ATD Carmonde a pu rencontrer le président Macron à Washington au moment de la dernière rencontre des Nations Unies. Il a dit nous soutenir sur cette question de la défense d'une protection sociale partout dans les pays. Ce n'est pas une utopie. Il faut que ça se mette en place. On a des protections sociales ici qui ne sont pas toujours suffisantes pour les plus pauvres, mais il faut aussi que les pays du Sud puissent en bénéficier. Et puis la dernière proposition, c'est être sûr que dans la transition vers une économie verte, les personnes les plus pauvres vont pouvoir bénéficier d'emplois et de formations. On a un exemple au Vietnam où il y avait pas mal de familles qui vivaient sur une décharge, hein, qui faisaient de la récupération. Et puis il y a eu une usine de traitement des déchets qui s'est installée. Et dans le dialogue avec l'installation de cette usine, on a été très soucieux de savoir si les personnes allaient pouvoir être embauchées. Et dans la réalité, il n'y a que 6 ou 7 personnes qui ont été embauchées. Et du coup, ça a privé de travail les autres. Donc on dit attention à ce que des mesures comme celle-là, à chaque fois, ne se retournent pas et n'excluent pas les plus pauvres. Voilà les 5 propositions.
Là, quand on regarde cette question sur l'échelle internationale, donc ça pose la question de l'aide internationale, donc de l'aide au développement et donc de l'humanitaire, et que les interventions de type humanitaire dans des pays qui viennent de subir des cataclysmes, des cyclones, des traumatismes d'une grande violence est toujours problématique. Et Pascal Canfin, je ne sais pas si... vous accepteriez de dire deux mots de la controverse qui a touché le WWF récemment, parce que c'est intéressant de continuer dans des exemples concrets qui concernent une intervention qui n'est pas directement climatique, mais qui a trait à la préservation de la forêt au Cameroun, en RDC et je crois en Centrafrique, si je me souviens bien. Et donc le WWF, avec les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire la préservation de forêts qui sont essentielles à la préservation de l'écosystème, est essentielle aussi dans l'action contre le dérèglement climatique, puisque pour limiter le réchauffement de la planète, on a besoin de forêts, on a besoin de forêts qui captent le CO2, le CO2 qui réchauffe l'atmosphère, donc c'est un sujet qui est tout à fait majeur et tout à fait essentiel, et de lutter contre la déforestation de ces forêts. Sauf que le problème qui s'est passé, qui a été révélé récemment, c'est que les personnes, les gardes, les vigiles, en quelque sorte, qui opéraient un peu sous la gouvernance du WWF, on s'est rendu compte que ces personnes commettaient des actes qui étaient attentatoires aux droits de certaines des populations vivant dans cette forêt. Donc c'est pas à cause du WWF, c'est pas ce que je veux dire. Mais on est typiquement dans une situation où on voit bien à quel point c'est difficile de mettre en œuvre hyper concrètement depuis des instances internationales ou depuis des organisations internationales, des actions qui, dans la complexité de situations locales, peuvent avoir des effets délétères. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ?
Et est-ce que je pourrais juste donner un chiffre avant ? C'est que la moitié la plus pauvre de la population mondiale est responsable de 10% des émissions de CO2, alors que 50% du CO2 émis sur la Terre est imputable aux 10% les plus riches.
Absolument. Alors, il y a beaucoup de questions. Je reviendrai aussi sur l'alimentation, parce que je ne suis pas complètement d'accord. Donc, sur ce qui s'est passé au Cameroun et dans d'autres pays voisins, en gros, pour faire très simple, dans ces forêts, il y a des Baka, qui sont des peuples autochtones, qui y vivent et qui sont à la fois qui prélèvent leur juste part de la forêt et ça ne pose aucun problème, et qui sont aussi, parce que ce sont les communautés qui sont aussi marginalisées au sein du Cameroun, parce qu'il y a du racisme des Noirs vers les Baka, à ce moment-là, enfin des Noirs, des peuples de certaines tribus camerounaises vers les Baka, qui sont des peuples différents sur le plan génétique, on a une tension qui est à la fois liée au fait que les Baka étant les plus pauvres, ils sont les plus susceptibles d'être utilisés par les trafiquants à la fois des espèces et du bois tropical. Et donc, certains d'entre eux servent de relais parce qu'eux connaissent parfaitement la forêt et donc ils savent exactement où va se trouver l'espèce ou quel hectare on peut déforester de manière illégale, ils le savent. Du coup, les trafiquants les utilisent. Du coup, les éco-gardes, qui sont ceux du gouvernement, sont en conflit avec les Baka. Et dessus, il y a une vision raciste des choses, qui est qu'en gros, c'est des Baka, c'est des pygmées, on s'en fout, et on fait ce qu'on en veut. À partir de là, c'est, vous voyez bien, le côté explosif de l'affaire. Du coup, il se trouve que c'est l'ONG, une ONG qui s'appelle Survival International qui a porté ça devant c'est très bien, devant le point de ce qu'on appelle le point de contact de l'OCDE, ça devient un peu technique, mais enfin devant une sorte de tribunal lié à l'OCDE pour essayer de régler ce type de conflit. Bon, malheureusement depuis, là je te dis la position du WWF, et malheureusement depuis Survival a retiré sa plainte parce qu'ils n'ont pas été capables de proposer un certain nombre de procédures, peu importe. Mais la tension, évidemment, entre la question des communautés locales, la question de la préservation, etc., elle existe, évidemment, puisque les trafics sont forcément, à un moment donné, dépendent de relais locaux, et ces relais locaux, ce sont la plupart du temps les communautés les plus marginalisées qui vivent dans les forêts tropicales. C'est ça, la réalité. On peut mettre un voile pudique dessus, mais enfin, la réalité, elle est là. Trafic d'espèces, par exemple, pour prendre que celui-là, c'est le quatrième trafic mondial, derrière le trafic de drogue, trafic d'armes et trafic d'êtres humains. Et la plupart du temps, c'est lié. Vous savez que vous gagnez beaucoup plus d'argent quand vous êtes trafiquant à tuer un éléphant pour la corne d'ivoire, pour l'ivoire, que de la drogue. Et comme c'est beaucoup moins risqué, bah, évidemment, vous allez là-dedans. Donc, en tout cas, il y a une économie mafieuse qui est là, qui détruit la planète, les ressources, les forêts, et qui utilise et qui instrumentalise les gens. Et ces personnes sont évidemment les plus vulnérables, parce que c'est celles qui ont le plus besoin des quelques dollars qu'on va leur donner. Donc cette situation, elle est complexe, mais nous, on essaye de la gérer en respectant ce qu'on a des principes de droit international, qui sont le consentement éclairé des populations, etc., un certain nombre de choses. Sur des terrains qui sont évidemment compliqués au cœur de la Centrafrique, vous imaginez bien que le système de gouvernance n'est pas complètement stabilisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, parce que c'est là que les enjeux sont. Sur ce que tu disais, les exemples que tu évoquais, quand j'étais ministre du Développement, j'ai essayé, et on s'était vu ou d'autres personnes à l'époque, d'ATD, justement d'essayer de faire en sorte que l'aide française respecte ce principe, qui est de dire, lorsqu'on intervient dans des secteurs d'activité, les déchets, l'eau, etc., sur lequel on sait qu'il y a une économie informelle qui fait vivre les personnes les plus défavorisés des pays du Sud. Attention à ce que, aux effets de bord. Parce que c'est bien d'avoir un système de tri qui va permettre de mieux préserver les ressources, mais attention à l'effet de bord. Je dois dire que je pense que ça n'a absolument rien changé, parce que, tout simplement, ces personnes-là ne sont pas dans le radar, ni des grandes entreprises multinationales qui ont les contrats, ni des agences qui financent une partie, que ce soit l'Agence française de développement, la Banque mondiale et leurs équivalents. Ils sont juste marginalisés, et comme ils ne sont pas non plus dans le radar du gouvernement local, ben ils passent à côté. Donc c'est extrêmement compliqué. Je pense que je n'ai pas réussi, très sincèrement. J'en avais l'intention, je n'ai pas réussi, parce que c'est trop complexe. Et qu'aujourd'hui, une agence va déjà dire « mais c'est déjà tellement compliqué de mettre en place un système dans une urbanisation galopante d'une mégalopole où il y a des centaines de milliers de personnes qui arrivent par an, que si en plus je dois faire attention à... alors j'arrête. » Et je suis d'accord avec toi. En fait, il faut inverser cette logique-là. C'est exactement ce que je disais au début. C'est si vous considérez que la préservation de l'environnement, de l'air, de l'eau, c'est un luxe pour ceux qui ont déjà tout, ben vous n'avez rien compris. Parce que précisément, ceux qui sont les plus dépendants de cette ressource sont ceux qui n'ont rien. Donc il faut réussir cette inversion. Et aujourd'hui, il faut être extrêmement clair, ce n'est pas du tout le modèle dominant. Et on en souffre tous les deux dans nos actions. Et c'est à charge à nous, charge à vous aussi, de nous aider à faire en sorte qu'on inverse cette logique. Sur l'alimentation, j'ai parlé des... Alors, d'abord, l'idée que les lasagnes seraient celles qui calent, les lasagnes de Lidl à 6 euros le kilo, caleraient plus que des céréales, du maïs et des légumes, d'un point de vue nutritionnel, c'est totalement faux. C'est une représentation. Et cette représentation, elle est vraie chez... n'importe qui. Ma mère me disait pendant, dans le Nord, on consomme beaucoup de gras, ben, il faut manger des frites, il faut manger du gras, hein, parce que c'est important, ça protège. Bon, on le sait que c'est pas vrai. Carl Lewis, qui est le plus grand athlète du XXe siècle, était végétarien, ça l'a pas empêché de gagner tout ce qu'il voulait gagner. Bon, donc l'idée qu'il y aurait d'un côté ce qui nourrit et de l'autre côté ce qui ne nourrit pas, c'est une pure représentation. C'est absolument pas prouvé d'un point de vue scientifique. Donc il faut travailler ensemble sur ces représentations de façon à ce que l'alimentation saine, équilibrée, à la fois pour la santé et pour la planète, soit accessible à tout le monde. Et il se trouve que, contrairement à ce qu'on croit, c'est peut-être l'un des sujets où c'est déjà le cas. Parce que des céréales, plus des légumes, des tomates, plus du maïs, tout ça est en dessous, au kilo, tout ça est en dessous du moindre produit transformé acheté dans le rayon de n'importe quel, de chez Lidl ou ailleurs. Donc c'est déjà possible. Simplement, effectivement, il faut culturellement, et d'ailleurs je pense qu'on pourrait peut-être travailler davantage ensemble, culturellement faire ce travail pour que ce ne soit pas vécu comme quelque chose qui rabaisse, comme une contrainte, mais au contraire comme un élément de dignité. Parce que vous le savez infiniment mieux que moi, vous travaillez tous les jours sur ces sujets, la question de la misère c'est une question monétaire, mais pas seulement monétaire, c'est d'abord une question de dignité. Or, l'alimentation, c'est tous les jours. Et l'alimentation, c'est tous les jours ce qu'on nourrit, comment on nourrit ses enfants. Et si on est capable de repartir de l'alimentation pour redire, mais voilà, en fait, vous pouvez le faire. Et vous allez même montrer la voie. Et ça ne vous coûtera pas plus cher. Et on travaille ensemble à le démontrer. À ce moment-là, vous n'êtes pas en train de faire un sacrifice de plus, une renonciation de plus. Vous êtes au contraire en train de reprendre la main sur quelque chose qui est bon pour vous. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on commence par ça, parce que c'est très concret, c'est tous les jours, et évidemment, ne pas perdre le fil de tout ce qu'on a dit dans le Sud. Le Sud, nous on travaille évidemment tous les jours dans le Sud, il y a un sujet qui est extraordinaire, c'est les mangroves. Les mangroves, c'est un écosystème, je ne sais pas si vous travaillez avec des communautés qui sont dans les mangroves, c'est un écosystème près des littoraux qui fait en sorte que l'eau de la mer ne monte pas trop à l'intérieur et qui sont des nurseries pour les poissons. Quand les mangroves disparaissent, et elles disparaissent à cause de l'acidification, à cause de l'agriculture intensive, à cause de l'artificialisation des sols, à cause de plein de phénomènes qu'on connaît, l'écosystème disparaît, donc la nurserie disparaît, donc les ressources disparaissent. Et vous avez deux effets incroyablement délétères pour les populations qui y vivent. Moi, j'ai vu de mes yeux vus au Sénégal la catastrophe que ça représente pour les gens qui sont les plus marginalisés aussi, là, les petits villages de pêcheurs dans les zones rurales du Sénégal. C'est que, ben, y a plus de poissons. S'il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'alimentation. Vous êtes obligé d'aller les chercher sur le marché. Il n'y a pas d'argent, donc problème. Et l'eau de la mer remonte. Du coup, le riz, les rizières sont attaqués par l'eau salée, le riz, ça ne pousse pas dans l'eau salée, du coup, il n'y a plus de riz. Et quand vous n'avez plus de riz et plus de poissons et que vous n'avez pas d'argent, là, vous commencez à être vraiment mal. Et donc, on est sur un cas vraiment typique où la préservation des écosystèmes est le cœur du sujet pour les populations les plus défavorisées.
Merci beaucoup, Pascal Canfin. Alors, on a un quart d'heure d'échange avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire passer. Je crois qu'il y a, voilà, il y a un micro, donc c'est madame. On va prendre plusieurs interventions. Ouais, je vous vois. OK, pendant 10 minutes, on prend les interventions. Et après, on aura 5 minutes ici pour répondre. Ça vous va? OK. Alors, allez-y, je vous en prie.
Bonjour, moi, je m'appelle Messali. Je suis de Dunkerque. Je voudrais vous poser la question, monsieur. Vous avez parlé, ça fait un peu médiatique, de ce qui se passe à l'étranger, c'est-à-dire les mangroves, etc. J'aurais souhaité vous restiez sur la France, parce que tout ça, c'est très médiatique, votre discours, mais ce n'est pas la réalité du concret de ce qui se passe en France, la région parisienne, la pollution. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça quand même? Parce que... la pauvreté, c'est vrai. Vous parlez des fruits et légumes, mais on mange à 10 sur une pizza, on mange à 5 sur une lasagne, quand on n'a pas beaucoup de, lorsqu'on n'a pas beaucoup de pognon. Mais vous avez vu le prix des fruits. Donc, acheter des fruits et légumes, c'est bien, mais quand on a le verre et ça, ou moins, quand on est à la rue. Alors, tout ça, c'est un discours, et puis vous avez été dans un gouvernement, je crois. Donc, si finalement, on se constate comme on le fait de soutenir le système en disant, bon, ce qu'il faut, c'est changer carrément le système. Les pollueurs, vous n'en parlez pas, le nucléaire, les agriculteurs, bah oui, les agriculteurs.
Il ne peut pas parler de tout d'un coup.
Mais on n'en a pas parlé du tout, c'est différent. Les pollueurs, les agriculteurs qui polluent avec le phytosate, etc., c'est ça qu'il faut parler, monsieur. C'est vrai que c'est bien, les discours extérieurs... les mangroves, tout ça, mais enfin, moi, je trouve ça un peu folklorique.
OK, merci. Merci, monsieur. Moins, s'il vous plaît.
Moins, si vous voulez. Sur le Nord sur le Cameroun, eh bien, il s'avère que le Cameroun vit du mil. Et le Guinness a obtenu de capturer toute la production pour faire sa bière. Donc maintenant, le Cameroun est obligé d'importer du mil. C'est absolument incroyable. Et nous, on s'en occupe et on essaie de faire quelque chose. Et on vise notamment à pouvoir, s'ils n'arrivent pas à trouver du mil, à pouvoir le remplacer par éventuellement du quinoa. On a une activité de plus de 30 000 euros avec eux. On travaille là-dessus. Je fais partie d'activités de solidarité internationale, ce que je voulais dire. Voilà. Donc ça va tout à fait dans votre sens.
Merci, merci monsieur. Alors monsieur devant.
Parler, qui va en Afrique en 2050, il y aura 2 milliards 500 000 personnes qui va financer tout ça. On dit, la Russie refuse de recevoir des émigrés, l'Amérique elle refuse de recevoir des émigrés. Je veux savoir qui va financer l'aide à tous ces pauvres. Voilà, okay. C'est ça.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a une dame ici.
Merci. En écoutant les deux intervenants, il me semble que ce qui est très important, c'est l'éducation dès le plus jeune âge à être acteur pour un environnement, pour l'humanité. Et est-ce que là aussi, les enfants des milieux les plus pauvres ont accès à cette éducation par les moyens qui sont utilisés, les médias ou dans les écoles.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions à ce stade? Oui, ah ben voilà, là il y en a trois. Si ça vous... Merci madame.
Bonjour, je suis Guillemette à Marseille et je participe à une bibliothèque de rue auprès d'enfants roms. Et donc, je peux voir que ces populations qui vivent des rebuts, de la société, des poubelles et tout ça, sont les premières affectées aussi par la pollution, le recyclage des métaux. Et même si elles viennent aussi de Roumanie, elles vivaient dans des décharges là-bas. Et donc, il y a un impact sur la santé des personnes qui est évident. Et ce que je voulais dire, par contre, malheureusement, je n'ai pas plus d'informations, mais je sais qu'à Marseille, il y a une association, une AMAP de paniers bio qui avait l'intention d'organiser des jardins dans les quartiers nord de Marseille pour rendre accessible la nourriture biologique et impliquer les personnes dans ces jardins, souvent sans emploi, et pour travailler aussi sur la nutrition avec ces personnes. Voilà, et je pense que c'est une voie aussi où chacun pourrait s'impliquer autour de chez soi dans ce type d'action pour travailler avec les personnes.
Merci madame. Il y avait quelqu'un derrière et juste devant. Ouais.
Oui, ça fera beaucoup de sujets peut-être. Oui. Mais
on va arrêter.
Voilà. La première chose, c'est j'ai animé pendant un temps un groupe de réflexion avec des personnes qui étaient en grande précarité financière en particulier. Et leur remarque, lorsqu'on a parlé de l'environnement, de la protection de l'environnement, c'était « mais les plus pauvres sont ceux qui respectent le mieux l'environnement parce que ce n'est pas nous qui polluons le plus ». Donc, en France, c'était. Et voilà, je trouve que c'est une remarque importante à prendre en compte. Et la deuxième, qui est une question, c'est quel est l'impact et quel sera l'impact des problèmes liés à l'évolution de l'environnement sur les migrations. Voilà.
Okay, merci pas beaucoup. La peine d'en dire. Peut-être une toute dernière intervention, madame qui était ici. Ouais. Vous voyez, la personne avec le haut gris. Vous pouvez lever la main, madame, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. On va, je suis désolée, c'est la dernière intervention à ce stade, excusez-moi.
Pour l'environnement, il faudrait penser aux enfants qui viennent. Il faudrait leur donner un environnement plus gai, plus heureux, et que tout le monde soit bien dans leur peau. Parce que dans cet environnement-là, personne n'est bien dans sa peau, et il faudrait un environnement qui soit meilleur. Voilà ce que je voulais dire.
Merci, madame. Bon, merci beaucoup. Désolée pour ceux qui ne peuvent pas parler, mais on n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tous les deux, vous pouvez rapidement réagir, Pascal en premier ?
Si vous pouvez couper le micro, voilà, c'est pas formidable. Moi, je pense que pour rebondir sur la dame qui donnait l'exemple à Marseille, je pense qu'il y a un potentiel extraordinaire qu'on n'exploite pas encore complètement, qui est justement de reprendre la main sur son alimentation. Parce que, je fais le lien avec la phrase sur le système de monsieur de Dunkerque. Moi, je suis d'Arras. Quand on est obligé de rentrer dans le système de l'agroalimentaire et de la grande distribution du low cost, parce qu'on n'a pas le choix, on sait que non seulement ce qu'on mange, c'est pas terrible, mais le modèle qu'on alimente de fait, le modèle social, le modèle agricole, etc., c'est pas non plus ce qu'on veut. Et donc là, il faut en sortir de ce système. Je suis entièrement d'accord, il faut en sortir. Et l'alimentation, c'est ce qui permet d'en sortir de manière finalement pas si compliquée que ça, parce qu'on, à condition que ce soit un peu organisé, on peut reproduire de l'alimentation locale dans des jardins, par exemple, urbains, avec des AMAP ou tout autre dispositif. Et là, je crois que ATD peut travailler sur cette question, vous le faites déjà, mais peut-être encore à plus grande échelle que ça, qu'à aujourd'hui, parce que là, vous avez tellement de bénéfices en même temps que je crois que ça vaut vraiment le coup de changer d'échelle là-dessus. Sur les questions de migration, je crois qu'il y avait une question, j'arrêterai là-dessus. Une des grandes causes qui génèrent les migrations, c'est l'instabilité environnementale. L'instabilité environnementale est une des causes, c'est jamais la cause unique, bien évidemment, mais c'est toujours une des causes qui va déstabiliser des communautés, qui va déstabiliser des populations, qui vont générer des conflits et qui vont générer des migrations. On a des tas d'exemples. Celui que j'évoquais très rapidement, en début, c'est celui du Sahel, où vous avez aujourd'hui une désertification croissante de cette zone, une augmentation des tensions entre les éleveurs et les cultivateurs, parce que vous avez des conflits d'usage dans un contexte où les ressources sont plus faibles. Résultat, vous avez une augmentation de la conflictualité, et donc vous avez des migrations, tout simplement parce que les ressources locales ne permettent plus d'assurer la survie, la vie encore moins, mais même la survie des populations. Les migrations, contrairement à ce qu'on croit, et vous, vous le savez, ce n'est pas d'abord des migrations qui viennent en Europe, c'est des migrations qui vont dans le pays et dans les pays voisins, qui du coup peuvent parfois contribuer à générer aussi de la déstabilisation. Donc oui, il y a un lien direct, immédiat, sans même parler des migrants climatiques de demain, il y a un lien direct et immédiat entre dégradation de la planète et augmentation de la conflictualité, de l'instabilité et donc des migrations. C'est pour ça qu'on a de l'alimentation à Marseille jusqu'au Sahel. Je pense qu'on a énormément de choses à faire ensemble et moi je serais ravi qu'on travaille encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui.
Il y avait une question sur qui va payer l'aide climat.
Moi je pense que si tu veux bien, Pascal, ce serait intéressant que tu rencontres le groupe de Nancy qui travaille sur toutes ces questions d'alimentation, parce que ce qui me permet de changer de regard, c'est ce que disent les personnes en situation de précarité sur la façon dont elles s'alimentent, et elles travaillent aussi sur la question du comment ouvrir les AMAP aux personnes en situation de précarité et que ce ne soit pas qu'un club de bobos, excusez-moi l'expression. Je vais revenir juste sur un point que vous avez entre autres évoqué, madame. On a au moment de la COP21 travaillé sur cette question finalement du réchauffement climatique et qu'est-ce que les personnes en situation de précarité en pensent. Et il en est ressorti qu'effectivement ce ne sont pas eux les plus gros pollueurs, ils l'ont bien dit, mais le deuxième point qui était important, c'est que ce sont les premiers à faire de la récupération et depuis très longtemps. Et ça, c'était aussi intéressant d'entendre que ce sont des acteurs de récupération et que là-dessus, ils ont peut-être des idées à nous donner. Voilà, c'était l'autre point sur lequel je voulais insister. Et sur la question de l'éducation, oui, bien sûr, et ça pose toute la question de l'accès à l'éducation des personnes en situation de précarité, alors dans les pays en développement, mais aussi en France, sur la question d'une éducation de qualité. Comment on fait ? Vous savez bien qu'il y a 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans aucune qualification. Ils sont quasiment tous issus de la grande précarité. Donc comment on fait pour réussir une éducation et pour que tous ces messages puissent atteindre les personnes en situation de précarité, qu'elles se sentent aussi accueillies dans le système scolaire ? C'est tout un travail. Il y aura aussi des conférences là-dessus sur l'école. Et du coup, si j'ai encore une petite seconde, je voulais dire un mot, parce que je vois Xavier Godineau dans la salle, sur une conférence qu'il va y avoir sur les indicateurs de pauvreté. Vous savez que les indicateurs qui sont utilisés au niveau mondial, c'est moins de 2 dollars par jour. Ça ne dit rien de la pauvreté dans notre pays, et puis ça ne dit pas du tout, et tu as commencé à l'évoquer, tout ce qui est dans la pauvreté, qui est en fait des difficultés d'accès aux soins, des difficultés d'accès à l'éducation, des difficultés d'accès au travail, au logement. Et donc il y a toute une équipe avec d'ATD Quart-Monde, avec l'université d'Oxford, dans 7 pays, des pays du sud que sont la Tanzanie, le Bangladesh, la Bolivie, des pays du Nord que sont la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Ukraine, et pour essayer de sortir dans un premier temps des dimensions de la pauvreté, et après on espère des indicateurs, et on aimerait que les Nations Unies, parce qu'on est ambitieux dans ce mouvement, changent les indicateurs de pauvreté et s'appuient sur le travail qui aurait été fait avec des personnes en situation de précarité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des chercheurs de haut niveau de l'université d'Oxford et des chercheurs en France, et des personnes en situation de précarité, co-chercheurs dans cette démarche. Il y aura toute une conférence là-dessus.
Tout dernier mot, et c'est fini. La question de l'accaparement des terres qui a été soulevée par monsieur avec l'exemple de Guinness, je ne sais plus dans quel pays, au Cameroun, c'est absolument... Là, on est là aussi sur un sujet qui est complètement convergent. Quand il y a l'accaparement des terres d'une multinationale, ça prive les personnes qui vivaient de cette ressource. Et généralement, cette ressource, elle est mal engagée pour la suite, dans l'exploitation non soutenable. Donc on a, que ce soit sur des questions agricoles ou des questions minières ou autres. Donc là aussi, c'est un sujet majeur, l'accaparement des terres. Et dans le droit, puisque vous parliez des droits, moi je pense que le droit à un environnement et une alimentation saine, c'est un droit sur lequel vous pourriez aussi vous positionner, je ne sais pas si vous le faites déjà, mais dans la liste des droits qui permettent d'accès à la dignité, je crois qu'il y a ce droit-là. Et on sait très bien que ce sont les mêmes logiques qui cassent les gens et qui cassent la planète. Et donc je crois que nos causes, même s'il peut y avoir des tensions, et c'est normal de travailler dessus, et c'est une bonne chose que de se le dire pour améliorer, les causes sont fondamentalement convergentes.
Merci beaucoup. Il faut qu'on arrête là parce qu'il y a un lourd programme de la journée. Merci beaucoup.